48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bonjour, chers éditeurs, chères éditrices, nous voilà réunis tous ensemble pour notre 47e magazine.
Voilà, une éditrice, mais des auditeurs et des auditrices, Fred, je voulais peut-être dire.
Ah, c'est ce que je voulais dire.
Exactement. Ça,
je sens que ce magazine va être chaud, les marrons.
On risque de partir en baroule, peut-être.
Ça va partir en baroule avec Sophie. Sophie Baroule, bonjour.
Bonjour.
Donc, il va venir nous parler pour la Compagnie du Lézard de la première mai qu'on fait depuis 5 fois. C'est-à-dire, donc, on pourrait presque parler de la 5e saison culturelle de Badarou. Et puis, on est avec Raphaël qui vient nous parler pour les éditions Vinoux en toute première, en méga scoop de son dernier ouvrage qui sort, qui est tout frais, qui arrive des éditions de chez l'éditeur. Et qui vient nous parler donc de son livre
qui s'intitule
comment, Raphaël?
L'accumulateur à bidouillerie.
Donc on va parler de l'accumulateur à bidouillerie. Et alors, soyons complètement honnêtes avec nos auditeurs, il nous manque nos troisièmes intervenants, mais c'était prévu. Ils nous rejoignent dès la fin de leur colloque, donc on n'est pas du tout en panique. Ça sera l'Association pour le développement de l'Occitan. Ils sont aujourd'hui en colloque et ils viennent nous rejoindre tout à l'heure pour nous parler de leur structure et de leur colloque en l'occurrence.
Voilà, le 5e colloque international transmission linguistique et culturelle.
Ça veut dire qu'ils sont en colocation ?
C'est un peu ça, ils sont en colocation avec plein de personnes qui parlent des langues minorées ou minoritaires. Voilà.
La classe.
C'est ça.
Donc on en parle tout à l'heure, on démarre avec Sophie. Donc, qui va nous parler de cette fameuse saison culturelle à Badarou. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette saison? Comment ça se construit, une saison culturelle?
La saison culturelle de Badarou, donc là, c'est la 5e édition. Donc, comme chaque année, on essaye d'organiser environ 8 à 10 soirées conviviales, familiales. Surtout pour les habitants de Badarou, pour aussi entraîner une vie de village, des sorties au sein du village. Et donc on essaye de travailler sur du tout public, du jeune public et aussi des soirées donc familiales avec donc des spectacles de tout genre. Ça peut être des concerts, du théâtre, du conte, ou aussi on intègre des exposants, donc des sculpteurs, des peintres. Et puis également, on propose aux gens de s'initier aussi aux arts avec des stages, que ce soit de la danse, du théâtre, du chant, de la sculpture sur bois aussi. Voilà.
C'est la Compagnie du Lézard seule qui gère cette programmation?
Alors nous, on est organisateurs. Et ensuite, donc, nous avons la municipalité de Badarou, bien sûr, qui nous soutient financièrement, mais aussi qui a un droit de regard, bien sûr, sur toute la programmation, puisque c'est au sein de sa commune que se déroule la saison culturelle. Donc, c'est avec eux qu'on fait un partenariat serré. Et voilà, on est soutenu, on est main dans la main pour ce projet.
Vous êtes le bras armé de la culture pour la ville de Badarou, on peut dire ça ?
On pourrait dire ça, mais il y a d'autres acteurs culturels sur le territoire de Badarou, il ne faut pas les oublier. Il y a le foyer rural aussi, le comité des fêtes. Donc voilà, c'est tout un amalgame d'associations qui travaillent aussi dans ce sens-là pour faire vivre le territoire.
Parfait. Alors, est-ce qu'il y a sur cette saison... tout est à retenir et évidemment nos auditeurs de Badarou. Comment on est quand on est un habitant de Badarou? Comment que ça s'appelle?
Un Badarousien.
Un Badarousien. Oh, ça c'est trop beau. Alors, cher auditeur Badarousien, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, bien sûr, il doit aller à tous les spectacles. Est-ce qu'il y a des coups de cœur pour la saison, pour la Compagnie du Lézard à absolument pas rater? Et puis, quels sont peut-être les prochains spectacles là, qui arrivent là tout de suite?
Les prochains spectacles, il y a samedi 23 novembre, il y a Galim, donc, qui est une chanteuse solo avec sa guitare, sa petite pédale pour faire les sons et les reproduire, qui viendra donc présenter des textes, des musiques voilà, engagées.
C'est assez sombre, non, niveau écriture
C'est assez sombre, mais aussi, moi, j'y vois toujours une petite lueur d'espoir aussi. Il y a quand même l'envie d'engagement et de bouger des choses aussi. Voilà.
Hein, Raphaël, il y a toujours une lueur d'espoir. Hein. Quoi qu'il arrive, pensez-y aujourd'hui.
Mais vous me connaissez bien, Ludovic, ma parole.
Donc, Raphaël ira voir le concert de Galim déjà. Et donc.
On peut acheter les tickets, Sophie ?
Tu peux réserver et puis tu. Mais je te ferai un prix pour les tickets.
Ça, c'est sympa.
Ah, ben, je rêve.
Alors, tu veux un petit livre ?
Galim qui était passée à Langogne,
oui,
il me semble.
Oui, exactement, c'est ça. Elle est passée à Langogne. Et donc, c'est le régisseur qui l'a sonorisé qui nous l'avait conseillé pour la saison culturelle de Badarou. Voilà.
Donc, les dates pour Galim,
c'est le samedi 23 novembre à 20h30. Et avant, si vous avez envie de commencer la soirée avec nous, il y a aussi des expositions avec donc Isabelle Croza, qui est une badarousienne qui présente des peintures et des sculptures. Et également Elisabeth Lamar, qui est en fait la maman de ma meilleure amie d'enfance et qui fait de l'artisanat, qui fait de la peinture sur verre et qui va venir d'à côté de Nice pour exposer. Donc voilà, c'est aussi faire un petit clin d'œil à ce qui se passe ailleurs.
Alors
voilà.
Tous nos auditeurs qui sont dans le 06, on leur fait un petit
Il y a un covoiturage coucou. Possible pour le 23 novembre.
Covoiturage. Voilà. Alors, covoiturage, bien sûr, Ludovic, oui. Qui est un vrai professionnel de l'animation, tend une perche. Vous travaillez avec l'association voisine sur le covoiturage pendant cette saison. Ça veut dire que concrètement, on peut venir au spectacle en covoiturant?
C'est ça. Si vous avez covoituré, donc pour venir au spectacle, il suffit simplement de nous le dire en caisse et vous bénéficiez du tarif réduit. Voilà.
Ah, en plus, on paye moins cher.
Voilà, tout à fait. Vous payez moins cher pour votre transport et en plus, vous payez moins cher pour le spectacle.
La classe.
Double économie.
C'est bien, ça, c'est la première année ou c'est
non,
un partenariat
qui perdure ? Non, ça fait plusieurs saisons qu'on essaye de le mettre en place. Ça fait également plusieurs années qu'on travaille avec l'association voisine sur un spectacle qui oui. parle du covoiturage. Oui. Et donc, du coup, on leur a proposé, s'ils le souhaitaient, qu'on fasse ce partenariat pour également leur faire un petit peu de publicité et parler d'eux à travers la saison culturelle. Voilà.
Très bien. Donc,
d'accord, très bien. Ça, c'est
le saison culturelle. Pardon, Ludo, on se coupe.
Excuse-moi, oui.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas.
Qu'on n'a pas
ensemble.
Fait d'émission ouais. ensemble. Ouais.
C'est ça. On,
c'est
est
ça.
Plus,
on perd nos marques.
On perd nos petites marques.
On va les retrouver. Ça, c'est le second spectacle, parce qu'il faut bien dire qu'il y a eu un premier spectacle, une ouverture de saison qui a eu lieu il y a quelques semaines, deux ou trois semaines, pendant que les gens qui participent au colloque international arrivent et qu'on salue, qu'on retrouvera dans la deuxième partie. Première ouverture de saison cette année qui a à peu près bien marché.
Oui. Voilà, c'est vrai que on se rend compte aussi qu'on est allé beaucoup sur du tout public, c'est-à-dire des spectacles qui sont plutôt faits pour adultes, on peut éventuellement amener ses enfants, mais qui, du coup, attirent moins le public de Badarou, qui préférait peut-être un spectacle plus, on va dire, adapté aux enfants, et du coup, dans lequel ils pourraient également se retrouver en tant qu'adultes. Donc voilà, il faudrait essayer de tourner plus sur quelque chose de familial et revenir là-dessus. Mais on était quand même très contents de recevoir les Double Scott qui ont offert un concert d'une qualité vraiment exceptionnelle.
D'accord, ben, merci pour cette première présentation. Donc c'est on va jusqu'au mois de juin par rapport à cette programmation. On a compris que vous aviez fait une programmation globale puisqu'on a les stages que vous avez présentés tout à l'heure qui sont en raccord avec les spectacles ainsi que effectivement toute la je vais pas réussir à aller jusqu'au bout de ma phrase puisque j'ai perdu ce que je voulais dire.
Mais je vais la finir si tu veux.
Merci, Ludo.
Voilà, des spectacles en raccord avec les stages que vous proposez, notamment on parlait tout à l'heure en off de stages qui marchent assez bien, de danse que vous avez pu proposer de salsa. Là, il va y avoir des spectacles flamenco, flamenca, avec des stages, voilà. C'est ça.
C'est ça. Donc oui, y a une soirée vraiment à noter, c'est le samedi 11 janvier. Donc une soirée repas spectacle, donc avec un spectacle de danse flamenco avec la Rera Flamenca et donc bien sûr un repas qui sera tourné plutôt sur le thème de l'Espagne et en même
donc
temps
choucroute.
Voilà, donc choucroute bien sûr et cassoulet en entrée, c'est important, et bien sûr donc on a proposé derrière des stages de danse flamenca. Avec Lorenzo Ruiz, qui est un grand maître du flamenco, qui est d'ailleurs le directeur artistique d'un des plus grands festivals de flamenco en France, à Rivesaltes. Voilà. Et donc, les stages, il y a une prochaine session le 30 novembre et le 1er décembre. Voilà, c'est pour les débutants et également les confirmés. Voilà.
D'accord. Alors ça, c'est le 11 janvier, ça paraît loin comme ça, mais pour autant... Comme c'est un spectacle repas, il y a des réservations à faire en avance, qu'on est sur des places limitées. Et donc, on peut réserver dès aujourd'hui pour ce spectacle.
On peut réserver.
C'est même conseillé.
C'est fortement conseillé. Chaque année, on refuse beaucoup, beaucoup de monde. On en reçoit beaucoup, mais hélas, on est obligé d'en refuser énormément. Et voilà, parce qu'on ne peut pas pousser les murs de la salle polyvalente. Mais voilà, donc réservez le plus tôt possible si vous souhaitez donc participer à cette soirée.
Il n'y a toujours pas d'avancée dans ce projet d'avoir une salle. On en avait discuté, je me rappelle, lors des dernières émissions.
Alors, nous, on a un local à Badarou pour pouvoir travailler maintenant. L'association, voilà, on peut travailler dans un local vraiment à nous. Mais alors, le projet de salle, il existe. On en parle avec la municipalité. Voilà, c'est en cours.
C'est en cours.
Voilà.
C'est le futur projet après le skatepark qui a été
c'est
inauguré
exact.
Ce vendredi.
C'est exact.
Au niveau des stages, j'ai vu donc beaucoup de danses d'Amérique du Sud, tango, salsa, flamenco. Stage de chant également, c'est pour clôturer les stages annuels, ça. Et stage de sculpture et tournage sur bois, dimanche 20 octobre. C'était le week-end dernier. Ça a bien marché c'est spécial quand même de partir sur un stage de sculpture et tournage sur bois, c'est vraiment spécialisé.
On le propose chaque année parce que donc, c'est l'association et compagnons de la Gouge, c'est le président donc, qui est l'intervenant de ce stage. On le propose chaque année avec plus ou moins de succès, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier et il faut ne pas hésiter à se lancer. Voilà, c'est vrai qu'on a toujours un peu des craintes, mais il suffit d'avoir l'envie et d'avoir aussi d'être bien accompagné. Et pour ça, Michel Herman-Soudan le fait très très bien.
Voilà. D'accord, très bien. Donc ces stages qu'on retrouvera tout au long de l'année, bien sûr, dans nos informations locales, on annoncera et sur nos réseaux sociaux et sites internet. On va vite fait poursuivre dans le spectacle que propose la compagnie du Lézard et bien sûr donc la ville de Badarou avec le 8 février une soirée chez l'habitant.
Oui.
Ça, c'est avec Alain Jahan, c'est ça ?
Oui, Alain Jahan, donc, qui est d'Ardèche, qui est en fait, un raconteur de poésie et de textes aussi, puisqu'il met en scène des textes de musique. Ça peut être Renaud, ça peut être Grand Corps Malade. Et c'est un monsieur vraiment qui a le sens des mots, qui appuie, qui vraiment donne à comprendre des textes vraiment magnifiques. Et donc, on l'a choisi, une soirée chez l'habitant, petit comité. Voilà, là aussi, il faut réserver si vous souhaitez y participer parce qu'il n'y a que 30 places. Voilà.
Et, l'habitant est déjà trouvé, alors ?
Non, on n'a pas trouvé l'habitant. Mais voilà, chaque
c'est
année...
C'est un appel aussi aux habitants,
voilà,
alors ?
S'il y a des habitants de Badarou qui ont envie de recevoir un spectacle...
Avec un grand salon, quand même.
Il faut un grand salon... Et un grand cœur aussi, voilà, une cheminée si possible, voilà, en option. Mais voilà, s'il y a des habitants ou de Badarou qui ont envie d'accueillir un spectacle, c'est avec plaisir. Nous, on vient, on met un petit projecteur et une trentaine de chaises et voilà.
D'accord, il faudra demander à Bruno May, notre ami du bar Le Louvre, qui aime bien recevoir des gens chez lui, on lui proposera.
Mais je le connais bien, Bruno, c'est lui qui nous fait le repas spectacle aussi.
Et j'imagine. On parlait de la maison culturelle, la maison culturelle, ça y est. Je
suis content,
fais un lapsus avec la maison qui tient chaud. On parlait de la saison culturelle de Langogne, la ouais. maison qui tient chaud, qui sera en première partie d'Alexis HK ouais. Dans 2 semaines à Langogne.
Exactement.
Et que vous recevez également, vous, à part.
Ben oui, nous aussi, on le reçoit. Bon, c'est un hasard total. On ne s'est pas forcément entendu avec Langogne. Donc oui, la maison qui tient chaud. Donc 4 garçons, les cheveux dans le vent, voilà, qui ont un style vraiment bien à eux. Vraiment de la musique voilà, enjouée, des jolis textes aussi.
Des jolis textes, oui.
Ouais,
il
y a de très très jolis textes qui sont vraiment d'actualité. Voilà, moi, ce qui m'a touchée, c'est que c'est vraiment des textes d'actualité. On sent qu'ils sont vraiment touchés par ce qui se passe et la transformation du monde, de la société, tout ça. Donc voilà, un grand coup de cœur pour la maison qui tient chaud, voilà, pour ces 4 garçons.
Ah, le coup de cœur.
Ouais.
Voilà, beaucoup de spectacles qui tournent autour de la poésie sur cette saison culturelle.
C'est pas faux. C'est un hasard.
C'est même vrai. Mais
c'est vrai. Il y a beaucoup de poésie. C'est vrai qu'il y a Alain Jahan, donc le 8 février. Et puis, il y a aussi donc, une journée de la poésie organisée par l'inspection, enfin, en partenariat avec l'inspection académique de Lozère.
On ne parle pas trop d'inspection avec Raphaël. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour. On salue Hugues, d'ailleurs, qui nous écoute peut-être.
Donc voilà, avec l'inspection académique, donc, on réalise donc, avec la Compagnie du Lézard un travail avec des élèves autour de la poésie. Et donc, il y aura une intervention des élèves le samedi 12 avril. Voilà, et on clôturera avec Ignatius et les frères Makwaya. Donc, comment vous faites chez vous, qui donc en fait raconte comment les Africains, eux, ont appris la musique et comment les Européens apprennent la musique, ce qui n'est pas du tout pareil. Et c'est un spectacle jeune public, donc voilà, à partir de 6 ans, donc à venir voir aussi.
Très bien. Et la Compagnie du Lézard qui va quand même jouer en mai.
Oui, alors là ce sont les ateliers théâtre de Badarou, donc ce sont les élèves enfants et ados qu'on a toute l'année, et aussi les adultes, donc là pour un spectacle, Grac de Bro, la légende. Donc Bro qui est un village des Alpes de Haute-Provence qui a accueilli des juifs durant la guerre, personne n'a parlé, et le maire de l'époque a reçu la médaille des justes à titre posthume, donc suite à ces événements. Donc le spectacle raconte bien sûr ces faits-là, et puis également il y a de la fiction. Donc voilà, donc les élèves vont se pencher là-dessus cette année.
Très bien, Sophie, merci. Pour se renseigner, vous avez un site internet, je sais que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, mais...
Oui, alors on a, bon, bien sûr, on peut nous retrouver sur Facebook. Ensuite, on a un site, c'est www.compagniecie-du-lézard.tk.
Voilà, et les spectacles, bien sûr, que vous retrouverez tout au long de la saison sur nos ondes. Et on vous réinvitera pour venir en reparler et relancer un petit coup pour essayer
Merci.
D'avoir un peu plus de monde. C'est toujours difficile en hiver, on le sait, dans nos bourgades, d'amener du monde avec les conditions climatiques. On va faire des pauses tout au long de cette émission avec des morceaux que vous avez choisis, parce que c'est justement des artistes qui vont se produire. Donc, première pause, c'est avec qui, Sophie ?
Alors, c'est avec Galim, donc une chanson qui s'appelle « Sous les pavés ».
L'hiver est rude, alors beaucoup se sont demandé combien d'entre eux entreprendront de marcher la main levée. Pour ceux qui ont la corne des pieds brûlés, chair esquintée par le froid, mais pas seulement pour ceux qui veulent en délester au moins un de tout ça, de ces regards étaient forcés de constater. Le soleil
pas eu déjà une révolution pour cela? Pays d'égalité ou de privilégiés, y a la nation, place à la solidarité. Vamos tous ensemble, l'énergie se rassemble. Retrouvons sous les pavés la playa et là, se dire qu'on est tombé. Ce qu'il nous plaît, se dire qu'on est en mai, et si on faisait ce qu'il nous plaît, se dire qu'on est. Changer que le soleil est là. Vamos tous ensemble, l'énergie se rassemble. Retrouvons sous les pavés, la playa est là. Se dire qu'on est tombé, qu'il fait déjà moins froid. Que tout ça va changer, que tout ça va changer, que tout ça va changer. Ah, ah, ah.
FM Le Mag.
Et voilà Fred, on est de retour.
Et nous revoilà donc pour cette seconde partie où nous avons accueilli entre-temps les membres de l'ADOC, l'Association pour le développement de l'Occitan, qui sont aujourd'hui en colloque international sur Mende et qui nous font donc le plaisir de venir témoigner de leur travail sur les ondes de 48FM. Alors tout d'abord, Paulette Geneviève, est-ce que vous pouvez nous présenter ce fameux colloque et vos objectifs et puis peut-être un petit mot sur l'association et puis clairement l'objectif de votre colloque?
Oui, bonjour. Donc, je suis Geneviève Paulet, conseillère pédagogique en langue et culture régionale sur le département de la Lozère. Donc, parallèlement, je suis membre de l'association ADOC, Association pour le développement de l'Occitan. Et cette association, donc, tous les 5 ans, réalise un colloque international. Donc, cette année, la thématique, c'était la transmission linguistique et culturelle et les pratiques plurilingues. Voilà,
voilà donc, c'est un colloque qui existe depuis 20 ans.
20 ans, donc c'est le 5e colloque. Voilà.
Et ce thème du colloque, en fait, c'est un thème central, cette transmission de... C'est ce que vous travaillez au quotidien, en fait.
Oui, tout à fait. Et donc, depuis 20 ans, donc, les thématiques ont évolué parce que donc, sur la ville de Mende, il y a un site bilingue, français-occitan. Et finalement, à chaque fois, ça nous a permis d'évoluer dans nos recherches, nos pratiques pédagogiques. Donc, c'est pour cela que nous faisons venir des personnes qui travaillent avec les langues dans le cadre du bilinguisme ou bien l'introduction et comment travailler à partir de l'occitan et du français. Mais ce sont toujours des cas de bilinguisme. Donc, nous faisons intervenir des chercheurs et notamment Roy Lister, qui est relativement fidèle sur le colloque, puisque c'est la 2e fois qu'il est présent.
Voilà, qui est avec nous dans ce studio.
Et qui est avec nous dans ce studio, et qui va peut-être nous dire un petit peu pourquoi il vient sur le colloque de Mende et quelle était son intervention.
Oui, oui, à vous la parole.
Oui, alors bonjour, je suis Roy Lester de l'Université McGill à Montréal, au Canada. Et voilà, c'est la deuxième fois que j'assiste au colloque et c'est surtout parce que j'appuie beaucoup la cause de l'enseignement de l'occitan. Je travaille donc au Québec et dans le contexte de la communauté anglophone à Montréal où on a des classes bilingues français-anglais. Et dans ce contexte-là, hier, pendant ma communication, j'ai présenté des recherches que nous faisons dans le contexte montréalais où on essaie de rapprocher davantage l'enseignement de l'anglais et du français, surtout au niveau de la lecture et de l'écrit, pour que les jeunes enfants n'apprennent pas dans une classe à lire en français et dans une autre classe à lire en anglais, parce qu'il y a beaucoup de rapprochements. Et j'ai présenté donc des stratégies qu'on utilise pour faire collaborer les enseignants de français et d'anglais à Montréal.
Et oui, parce qu'il y a une spécificité d'un pays qui a plusieurs langues, comme on peut voir dans de nombreux pays. Et c'est vrai que vous, c'est qu'obligation quand on est au Canada, au Québec, de parler anglais et français.
Mais c'est surtout une obligation de parler français au Québec. C'est vraiment le français qui est la langue officielle au Québec et l'anglais... L'anglais est une langue officielle au Canada, mais pas au Québec. Donc, les élèves des écoles de langue anglaise ont vraiment intérêt à apprendre le français pour pouvoir entrer au marché du travail après.
Il y a beaucoup de classes bilingues, justement, au Québec?
Oui, dans les écoles de langue anglaise, on a aussi des écoles de langue française où vont les francophones. Et là, on n'a pas de classes bilingues, ce n'est pas permis. C'est interdit, d'ailleurs, par la loi. Et donc, les classes bilingues se retrouvent dans les écoles de langue anglaise. Et il y en a beaucoup, oui.
Est-ce qu'il y a des personnes au Canada ou au Québec qui demandent qu'il n'y ait qu'une seule langue qui soit regroupée ou pas du tout le fait de parler français au Québec et de parler anglais sur toute la zone des montagnes, etc., c'est une particularité, une spécificité que chacun aime avoir et veut continuer d'avoir?
Mais c'est sûr qu'au Québec, le français prime, mais on a quand même deux communautés bien distinctes. La communauté anglophone, qui a ses propres écoles, même ses propres hôpitaux. Au niveau de la télévision, on a tout. Je pense que c'est deux communautés qui quand même vivent bien ensemble sans qu'on dise qu'ils devraient plutôt en avoir une seule.
Donc on a bien deux communautés avec deux langues, mais on peut vivre ensemble en ne parlant pas la même langue. Et c'est un témoignage que l'association porte, qui est parce que les liens avec l'Occitan... Parce que alors, rassurez-nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent Occitan. Enfin, rassurez-nous pas ou informez-nous, mais on ne parle pas beaucoup Occitan au Québec. Si ?
Ah ben non. Oh ben... si, on m'a dit.
Les collègues, ils auraient bien voulu que vous disiez oui, mais... Là, il aurait fallu prouver. Il aurait fallu prouver.
C'est ça, c'est que la langue française Québec est minoritaire et que nous, on est une langue régionale, donc aussi minoritaire par rapport au français. Donc, c'est en ce sens-là que c'est intéressant. Et on est pour la diversité linguistique et culturelle. Donc, nous, notre objectif, c'est pas de faire qu'un, c'est de faire deux, voire trois, être plusieurs.
Mm-hmm. Oui, comme au Canada, oui. On ne veut pas une seule langue, une seule culture, c'est pas ça. C'est multiculturel, plurilingue.
Pour nous, c'est une richesse.
Donc, au-delà de la langue, il y a la culture, la question de l'appréhension de la culture, de la multiculture, donc, qui est quand même aujourd'hui, effectivement, ne serait-ce que dans l'actualité et dans les enjeux de société, des choses qui se retrouvent au centre de nos questions. Et donc, c'est des choses que vous avez abordées, j'imagine, dans le colloque, qui sont transversales sur la question linguistique, culturelle. Est-ce qu'on a notre troisième intervenant, donc Monsieur Gély Arbousset, j'espère que cette fois-ci j'ai pas mangé le nom.
C'est parfait, c'est parfait.
Pour le coup, moi je suis une catastrophe en langue. Donc et déjà j'ai beaucoup de mal avec le français. Donc par rapport à cette thématique, alors plus particulièrement par rapport à votre intervention, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez pu intervenir dans ce colloque?
Effectivement, mon entrée était d'abord culturelle. J'ai essayé de montrer, je suis enseignant de futur maître d'école, de futur professeur des écoles. Je travaille à l'IUFM de Montpellier, qui est devenue depuis septembre faculté d'éducation de Montpellier.
Ouais, on a essayé de suivre sur les ondes vos évolutions. Voilà. C'est pas simple, mais
On est maintenant la faculté d'éducation. Donc, dans le cadre de la faculté d'éducation, c'est-à-dire de la formation des professeurs des écoles, j'ai une casquette qui est de préparer les futurs enseignants de l'Académie de Montpellier. Et donc, puisque je suis aussi professeur d'histoire et d'occitan, mon idée, c'est de sensibiliser les futurs enseignants à la richesse du patrimoine local. Pour cela, j'ai trouvé à la Bibliothèque nationale de France un manuscrit qui date du XIIe siècle, en occitan. Donc, ma démarche, c'est de dire qu'il est possible de s'appuyer sur des manuscrits en occitan du XIIe siècle pour faire la classe actuellement à des enfants dans les classes bilingues ou non bilingues. En réalité, ce manuscrit, il est richement illuminé. Il y a plus de 250 enluminures. C'est-à-dire, c'est un trésor formidable de la culture occitane qui est complètement méconnu, mais qui, en réalité, est tout à fait accessible à des enfants jeunes qui voudraient découvrir le Moyen-Âge, puisque ça parle du Moyen-Âge. Alors, on a des chevaliers, on a des combats, on a des tournois, on a des fées, on a des châteaux forts, c'est-à-dire tout ce qui plaît aux enfants.
Comme chez Winux, les éditions. Mais on en parlera après.
Mais c'est en français, ouais.
C'est en français. Vous êtes complètement dans le thème, en fait, oui, avec ce thème des transmissions linguistiques et culturelles. Vous collez parfaitement. 12e siècle, vous nous dites, l'Occitan n'a pas évolué du 12e siècle
aujourd'hui.
Comme le français a évolué entre ses origines et l'époque actuelle. Ça veut dire qu'on va travailler non pas sur le texte ancien, mais on va travailler sur une version moderne du texte ancien, avec les sections bilingues ou avec la version française de ce texte ancien pour les enfants normaux entre guillemets, c'est-à-dire les enfants qui ne sont pas scolarisés dans des sections bilingues.
D'accord.
Parce que je crois en fait que le patrimoine occitan, artistique ou littéraire, il n'est pas réservé aux Occitans. Il n'est pas réservé à ceux qui ont une pratique de l'occitan à l'école. Il est offert à tout le monde. Ça veut dire que les enseignants que je forme, en réalité, ce ne sont pas que des occitanistes, ce sont des futurs enseignants. Et je leur montre qu'il est tout à fait possible d'utiliser le patrimoine de proximité et que du coup, ce n'est pas un repli identitaire. On peut utiliser le patrimoine de proximité pour enseigner le Moyen-Âge à des enfants d'aujourd'hui sans pour autant que ça sente le refus de la modernité ou de l'autre. Donc, on est bien dans une approche interculturelle en s'appuyant sur nos ressources locales, notre patrimoine local.
Et comment réagissent vos élèves à cette approche ?
Ben, ils sont enthousiastes.
Ils sont enthousiastes ?
Oui. C'est bien mieux de travailler sur un manuscrit du XIIe siècle que de travailler sur un manuel scolaire.
Bien sûr, oui.
Donc, on imagine un sacré travail de recherche quand même de votre part derrière.
Un travail de recherche, de préparation, des supports, parce qu'il va falloir quand même choisir les illustrations. Il y en a 250 dans le manuscrit. On ne va pas en montrer 250 aux élèves. Il a fallu les sélectionner, il a fallu les questionner, il a fallu trouver celles qui nous paraissaient les plus justes pour parler du Moyen-Âge avec ce manuscrit, qui est quand même un manuscrit ancien et dont on n'a pas l'habitude forcément.
Effectivement, on imagine.
De l'Occitan du XIIe siècle, oui. Y a-t-il plusieurs Occitans, langue occitane, plusieurs façons de le parler, de l'écrire, de dialecte, oui.
Voilà. Il y a un espace occitan qui est assez large, qui va des Alpes à l'Atlantique, avec des variantes à l'intérieur de cet espace-là. Chez nous, ça s'appelle languedocien. Voilà, et on enseigne avec la variante locale.
De local, oui. Et en Lozère, sur nos classes bilingues, c'est pareil, c'est le même occitan qu'on apprend à nos élèves, Madame Paulet ?
Sur les classes bilingues ici à Mende, effectivement, c'est le languedocien. Voilà.
D'accord.
Mais lorsqu'effectivement je vais plus au nord de la Lozère, au niveau du parler, on va s'adapter, c'est déjà plus l'auvergnat. Mais au niveau de l'écrit, c'est le code et le standardisé, donc, et c'est le languedocien qui est utilisé. Voilà.
Ok. Est-ce que ça veut dire quelque chose, baroule, en occitan ? Je me posais la question. Partir en baroule ?
Oui, c'est barouler, c'est partir en balade, enfin en vadrouille.
Voilà. Eh ben voilà, Sophie.
Voilà Sophie.
Parce que Sophie baroule, donc on se disait.
Voilà. Si elle va d'un endroit.
Sophie
à droite,
se balade.
À gauche, elle baroule beaucoup.
C'est pas forcément très positif. Hein. Oui. Quelqu'un qui baroule, hein, c'est quelqu'un qui traîne un peu, qui erre un peu. Ouais. Une baroule aérée, c'est quand même.
C'est tout à fait ça. C'est
une artiste un peu, quoi.
C'est voilà. Une catastrophe.
Une vraie saltimbanque. Exactement, c'est ça.
Ouais, voilà, c'est ça.
Alors, un colloque qui a 20 ans, on retrouve des personnes qui sont venues la première année, il y a 20 ans, à ce colloque. On retrouve aussi également aujourd'hui, c'est monsieur.
Ou les successeurs.
ou les successeurs.
Parce que c'était Rebuffaut, Jacques Rebuffaut, qui était auparavant venu et qui avait commencé ses travaux sur la langue, la négociation de la forme, de la forme et du fond. Et après, c'est, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est toi, Roy Lister, qui a repris finalement ses travaux et qui est allé plus loin. Voilà.
Attends, Ludo, ça fait 20 ans, c'est le cinquième, c'est comme pour les Jeux Olympiques, il y en a tous les 4 ans.
C'est ça. À peu près.
Tous les 5 ans.
5 x 5, 25. Ben oui, bien sûr. 5 x 5, 20. Bravo, Raphaël.
Bien sûr. Oui, non, mais c'est en occitan. Ce n'est pas tout à fait les mêmes mathématiques, peut-être.
C'est pas le même calendrier.
Et donc, ça se fait tout le temps à Mende ou vous,
oui.
Vous... oui, d'accord.
Toujours, on est
au cœur du colloque international.
Tout à fait.
Donc, ça, c'est quand même pas rien.
Non, ce n'est pas rien, d'autant plus que. Quand même, on a des gens qui nous suivent et qui nous accompagnent, donc je pense qu'ils doivent y trouver quelque part leur compte et qu'ils trouvent là un endroit intéressant pour venir, parce que sinon je pense qu'ils ne viendraient pas.
Et ben c'est ça, c'est que ça fait un petit peu de voyage quand même pour nos amis du Québec.
Oui.
Il faut, ça se mérite la Lozère, hein. Mais on est ravis de ce brassage culturel aussi. Qui est sur nos terres lozériennes. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez mettre en avant, Madame Paulet, sur ce colloque qui vous semble important de souligner par rapport au travail que vous avez pu mener ?
Ouais, tout à fait, c'est un travail très important pour tous les enseignants, les chercheurs, formateurs, parce que l'on s'appuie sur toutes les conférences, sur tous les échanges que l'on va avoir durant ces 2 jours, pour après en tenir compte dans nos pratiques pédagogiques. Et donc, c'est vraiment très intéressant pour les enseignantes.
Et oui,
donc, ça va nous permettre d'évoluer, de modifier nos pratiques pédagogiques, didactiques, voilà, pendant 5 ans, de se les approprier, de les mettre en place, parce que ça prend aussi du temps. Et puis, dans 5 ans, sûrement que d'autres questions vont émerger, et une nouvelle problématique aussi.
C'est un vrai espace de travail, oui, quand on voit les ateliers que vous proposez, les conférences, c'est pointu, ça reste quand même éclectique.
Et diversifié. Pour essayer de toucher différentes personnes qui travaillent avec des langues.
D'accord.
Avec des langues, voilà.
Oui. Est-ce que vous sortez un petit bilan à la fin du colloque pour donner à tous les intervenants, savoir...
Oui, alors ce petit bilan, ça prend quand même un petit peu de temps parce que ce sont des actes, donc c'est-à-dire qu'on va retranscrire toutes les conférences, tous les ateliers... Et donc, d'ici un an, effectivement, donc on aura les actes. Mmh. Et c'est très intéressant parce qu'à partir de ça, on va vraiment pouvoir travailler.
D'accord. Voilà.
Et donc, ça va permettre aussi une diffusion de cet événement. Voilà.
Bien sûr. Alors, pour sortir ce petit bilan, on vous propose le format frites. Alors, c'est Raphaël des éditions Winux qui propose un nouveau format qui allait en Belgique se faire éditer. C'est le format frites pour les livres. Cet après-midi, il reste encore des ateliers, des conférences. C'est ouvert au grand public également ?
Oui, tout à fait.
Donc, on peut toujours aller à l'IUP cet après-midi pour venir participer, écouter, réfléchir, discuter.
Il reste une série d'ateliers, une conférence et ensuite, on va clôturer le colloque. Voilà.
Le statut juridique de la langue au soutien de sa transmission. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés par cette question, c'est cet après-midi, après les ateliers de travail.
Ben, on vous remercie, on ne vous prend pas plus de temps parce qu'on sait que vous avez une journée qui continue, qui est chargée. Merci beaucoup. De toute façon, on laisse la parole à la doc souvent et on vous la redonnera. On fait une nouvelle pause musicale. Sophie et la balade, on écoute quoi maintenant ?
C'est pas trop une balade, là, mais c'est La Maison qui tient chaud avec Chacun son style.
48 FM Le Mag.
Le roi des villes, le roi des champs, nous a raconté la fontaine. Différents styles et drôles de gens qui chantent tous la bohème. Les citadins, les campagnards sont des poissons dans leur milieu. Les grands sapins, les grands boulevards, c'est pas si grand dans tous les yeux. Et c'est chacun son style, ouais, c'est chacun son style. Oh, c'est chacun son style, et chacun dans son style. Et c'est chacun son style, ouais, c'est chacun son style. Oh, c'est chacun son style, et chacun dans son style. flamand province, ça fait jacasser l'autochtone. Il craint les chiens, reste à distance, discute avec son téléphone. Décompressé de temps d'air pur, le voilà ça y est qui décolle. C'en est assez, tous en voiture, le verre devenait monotone. Et c'est chacun son style, ouais, c'est chacun son style. Oh, c'est chacun son style, et chacun dans son style. Et c'est chacun son style, ouais, c'est chacun son style. Oh, c'est chacun son style, et chacun dans son style. Se rend en ville, c'est souvent par nécessité qu'il est comique, le malhabile, dans le pré des précipités. Déboussolé, il en overdose, voilà terminer sa visite. Sa liberté, c'est pas grand chose, ce trou la vie va moins vite. Et c'est chacun son style, ouais, c'est chacun son style. Oh, c'est chacun son style, et chacun a son style. Et c'est chacun son style, ouais, c'est chacun son style. Oh, c'est chacun son style, et chacun dans son style.
Allez, c'est reparti, pas de jingle, pas de virgule, qui est passé avant le morceau, parce qu'on a eu un petit souci d'ordinateur, merci Sophie. Mais c'est reparti, Fred.
C'est n'importe quoi, cette animation, cette émission...
Si tu continues, je vais parler en occitan.
Oh non.
Je vais finir l'émission en occitan.
Bon alors, pour les quelques auditeurs qui nous restent, merci de votre fidélité et vous n'allez pas le regretter.
Il faut vraiment avoir bon caractère pour écouter 48 FM.
Exactement, mais on n'a que des gens super géniaux qui nous écoutent. Et ouais, c'est...
dont Hugues, qu'on salue, qui est l'ami de Raphaël aujourd'hui. Donc voilà, on va expliquer pour tous nos auditeurs, on parlait d'inspection et tout ça de Raphaël, c'est que Raphaël est en plein contrôle URSSAF pour nos amis de Rude Boy Crew. Et donc, il s'est fait amener quand même par son contrôleur URSSAF. Il a dit « Oui, mais je suis pressé, j'ai une émission de radio. Par contre, je peux venir avec vous, Amande, vous pouvez me déposer. » Bravo, Raphaël. Il est sympa, il paraît.
Oui, oui, il accepte bien les covoitureurs dans sa voiture. Il est très sympa. Merci, mais... Hugues, pour le lift.
Mais c'est la cool attitude de Raphaël et de cette maison d'édition unique en jeunesse, ouais, sur la Lozère.
Qui n'a pas de problème d'URSSAF d'ailleurs, Winux. Hein.
Non, mais ni d'ailleurs Ubocro, c'est pas parce qu'on a un contrôle qu'on a un problème. Tout va bien, on rassure nos auditeurs, il y aura bien un festival l'année prochaine, ça continue.
On peut parler de Vinux là où alors, on Vinux parle que de Rude Boy Crew.
D'avoir plein de casquettes, mademoiselle Raphaël. L'accumulateur à bidouille, à bidouillerie.
Alors, deux erreurs dans la prononciation, c'est pas grave. Est-ce que je peux commencer à parler?
C'est mon émission, je fais ce que je veux et autant de fautes de français que je veux.
Voilà.
Mais bon, vas-y, t'as le droit de corriger quand même.
Moi?
Oui.
Ou Ludovic?
Non, Ludovic, c'est, bon, c'est, Ludovic, c'est une catastrophe.
L'accumulateur à bidouillerie.
L'accumulateur à bidouillerie.
Mais avec un accent circonflexe.
Qu'est-ce que donc que cela?
C'est un magnifique nouveau livre. Notre nouveauté ultime, c'est son premier jour sur le sol lozérien, puisqu'il a été imprimé en Belgique. Et donc, Ludovic disait qu'il a un format de frites. Bon, voilà, alors donc les auditeurs ont bon caractère, ben, les invités également ont bon caractère, puisque en fait, c'est un format allongé très chic.
Très chic.
Pas du tout un format de frites.
Un petit peu allongé comme une frite.
C'est-à-dire que Ludovic, quand on sort du livre de poche, il est un peu perdu. On s'excuse.
Et si il a lu que deux oui-oui, c'est normal.
Je lis que du Proust, alors vous savez, moi, c'est des carrés, des pavés.
C'est ça.
Mais je vais m'y mettre.
Vous lisez du Proust aux toilettes?
Absolument.
Donc, bon, si on peut faire un point pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les éditions Vinux.
Si tu veux absolument parler de toi, Raphaël, allez, vas-y.
Qu'on ne lit pas aux toilettes, par contre, les éditions Vinux, c'est sérieux, c'est posé dans
alors,
le
les éditions Vinux.
Ça fait donc... on est une petite maison d'édition depuis 3 ans. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de nous, mais il y en a, puisque Hugues ne connaissait pas.
Ah. Parce qu'il n'écoute pas 48 FM, parce que c'est pas la première fois qu'on parle des éditions Vinoux.
Non, donc je me dois de refaire un petit topo. Donc ça fait 3 ans qu'on a monté notre maison d'édition, Marion Fourniot et moi-même. Et on est aujourd'hui à notre 7e album publié, donc l'accumulateur à Bidouiri. Et donc 2 albums par an, c'est notre rythme de croisière. Et on est resté fidèle à ce rythme du début jusqu'à la fin de nos jours. Voilà.
Carrément. Donc, c'est pas la peine d'espérer plus de 2 livres par an de la part des éditions Vinoux. Ce qui veut dire que, quand même, on attend ces albums avec une impatience incroyable.
Exactement. Et là, vraiment.
C'est comme le colloque occitan. On l'attend tous les 5 ans. Et là, c'est 2 tous les ans.
Voilà. Et là, c'est dommage que la librairie n'ouvre qu'à 14h parce que sinon, il y aurait déjà. Enfin, les gens doivent.
Il y a déjà certainement la queue, à mon avis. Certainement.
Et ça parle de quoi ce livre alors?
Alors, ce livre, c'est l'histoire de Hector et Archibald, qui habitent dans une petite maison au milieu d'une forêt d'immeubles, de gratte-ciel, et qui n'ont vraiment pas grand-chose chez eux, juste ce qu'il faut, une guitare, des livres, c'est tout, et un lit, bien sûr. Et en fait, tout va bien pour eux dans la plus totale désharmonie, à part qu'un jour... Ils reçoivent...
Un contrôleur URSAF.
Mais Ludo.
Est-ce que c'est ça?
Voilà, et leur vie tombe en bon,
je vais le virer, je vais lui couper le micro, promis.
Non, un jour, ils sont en train de faire un peu de farniente, et ils reçoivent un prospectus de publicité qui annonce une grande promotion sur les bacs à glaçons. Pour 13 bacs à glaçons achetés, un congélateur offert.
Alors, ah là, ouais.
C'est chouette.
C'est
ça.
Le début de la fin.
Non, mais Hector, il a beau être assez sobre et assez asset, il se dit que c'est vraiment une bonne affaire. Donc, il court au supermarché, il va acheter les 13 bacs à glaçons, et finalement, en mettant un pied dans le supermarché, c'est un peu le début de la fin, puisqu'il se retrouve absolument assailli par les tentations, et donc de promotion comme ça, en promotion, toujours de plus en plus exubérante et qui semblerait proposer des choses à peu près inutiles. Disons que Hector se laisse charmer et commence à remplir sa maison de choses inutiles. Jusqu'à ce que le vendeur lui dise que s'il arrive à accumuler jusqu'à 200 points de fidélité, il va avoir droit à un cadeau exceptionnel, l'accumulateur à Bidouiri. Alors là, Hector est complètement hystérique, il est complètement excité par cette idée et là, vous allez voir s'il va réussir à acquérir cet accumulateur en achetant le livre à la librairie Chaptal ou bien à la librairie de la Lorgnette, la nouvelle petite librairie qui vient de s'ouvrir là, à Mende. Je suis vraiment tellement heureuse qu'il y ait une nouvelle librairie à Mende. Et maintenant, on en a 2 et c'est magnifique. Bienvenue à Héloïse et sa librairie de la Lorgnette.
Voilà, qu'on retrouvera dans les informations de demain dans le journal, au passage. Avec d'ailleurs Fred aussi, qui sera également dans le journal. Il est partout.
Tu t'es quand même fait griller la priorité sur l'info. Et on a effectivement une nouvelle librairie.
Et oui.
C'est moi qui l'ai dit.
Pour lequel on est ravis. Et alors, en plus, si l'accumulateur à Bidouiri se trouve dans cette librairie, c'est encore mieux. On voit bien que c'est encore un ouvrage qui n'a pas été complètement choisi au hasard. Il y en a que 2 par an, mais ils sont quand même relativement sérieusement choisis. Comment on choisit ses écrivains, ses illustrateurs?
Ben, vous voyez, à la pêche, il y a des filets et il y a des mailles plus ou moins grandes.
Ouais.
Vous voyez, vous prenez le filet avec les mailles les plus petites, là vous réduisez encore par 10, et là c'est la grosseur des mailles du comité de lecture de des lecture. Éditions Vinoux.
Donc on est forcément sur des thèmes qui sont traités avec poésie, mais d'actualité. On aurait cru comprendre qu'il y aurait une petite critique de la société de consommation,
Mais quelle finesse.
Non, mais c'est incroyable.
Hein. Il est balèze. Hein.
Ah non, on est trop fort dans ce comité de lecture 48 FM.
On dirait presque que vous l'avez lu avant.
Presque.
Mais c'est quand même pas le cas.
Et non, parce qu'il sort aujourd'hui.
Il sort aujourd'hui, on l'a en total exclu. On a juste l'album devant nous qui est effectivement magnifique, qui va plaire, c'est certain, à nos jeunes lecteurs et qui certainement aussi fera écho à tous les parents qui ont envie de sensibiliser leurs enfants sur comment consommer aujourd'hui et comment vivre peut-être d'une manière générale avec la consommation dans notre société.
Oui, c'est vrai que c'est un peu c'est la première fois qu'on a un thème aussi politisé, entre guillemets, en tout cas une petite sensibilisation à notre responsabilité de citoyen. Donc nous, c'est évidemment une idée qui nous plaît, qu'on défend, mais ça reste une idée. Voilà, oui, nous, il nous semble que la société de consommation, avec ses systèmes de promotion, de points gratuits, de cadeaux gratuits et de fidélité, est un peu agressive et qu'on se retrouve parfois chez soi avec des choses dont on n'a pas forcément besoin et pire, pas forcément envie d'avoir. Voilà, donc quand l'auteur nous a proposé ce texte, donc on est plusieurs personnes à se répartir le travail d'analyse des propositions qui nous sont faites. Donc là, c'est Rachel Arrault qui nous a dit, les filles, il y a vraiment un texte qui est vraiment sympathique parce que ça aborde ce thème, mais sans donner abruptement des slogans politiques.
On n'est pas dans la morale.
Exactement. C'est vraiment d'une façon rigolote et d'une façon poétique et humoristique également. Voilà. Et donc, on a complètement adoré. Et là, on a trouvé une illustratrice, une toute jeune illustratrice de Bordeaux, Julie Grugeot, qui n'a pas édité beaucoup de livres et on est très content du travail qu'elle a pu faire. Donc comme la maison va se remplir de bidouilles, choses, trucs bidules, et qu'il y a vraiment une sensation d'oppression dans la maison au fur et à mesure que le personnage va acheter des choses, on a choisi un format très allongé. Et donc le texte est un peu...
Et non pas en forme de frites.
Le format juste belge.
Le format belge.
On le vend avec un petit paquet de mayonnaise. Et donc... Non, ça c'est une blague. Donc, donc un format très allongé pour un peu amplifier l'idée d'oppression. Et aussi ce style d'illustration tout en strates. L'illustratrice, le fond des illustrations sont faites en accumulation d'éléments différents. Voilà, donc allez le voir à la librairie.
C'est le plus simple, on va à la librairie. Alors le sous-titre, c'est moins cher que gratuit. Il a un petit coût quand même, cet ouvrage. Pour combien est-ce qu'on pourrait se l'acquérir pour faire vivre ses auteurs et puis son auditeur?
Alors là, vraiment, vous avez de la chance parce que chez Vinyux, on n'est pas des raclures. On vous a fait un tarif vraiment...
Ça, c'est du slogan.
Ah, c'est pas mal, ça.
Donc, au prix, à la modique somme de 14 euros, vous pouvez vous procurer ce magnifique album que je conseillerais à partir de 7 ans car le texte est quand même assez conséquent. Donc, c'est peut-être l'album qui est pour les enfants les plus grands. C'est le texte le plus long qu'on ait édité pour le moment... Sauf le deuxième album qu'on avait édité pour les adultes, mais celui-là pour les enfants, voilà, c'est à partir de 7 ans, je conseillerais.
Alors, à partir de 7 ans, en autonomie de lecture, est-ce que ça peut correspondre aux un peu plus jeunes, si le papa et la maman, la grande sœur, le tonton fait la lecture? Mais ça reste quand même des thèmes qui sont...
Oui, qui peut-être à partir de 5 maturité. Ans, si les parents le lisent, ouais.
Ok, donc...
Vous revenez de Charleroi, c'est ça?
Oui, c'est un nouveau truc à nous maintenant. Ça y est, on est intégré dans le paysage de l'édition jeunesse nationale. Oui, attention.
C'est un gros salon, Charleroi, de l'édition jeunesse.
Et pour nous, c'était un gros événement. C'était vraiment la première fois qu'on était dans un énorme salon comme ça. Donc, spécialisé jeunesse, le plus gros salon de Belgique, subventionné par la région Languedoc-Roussillon pour aller nous présenter là-bas. Et c'était complètement incroyable, cette expérience, de se retrouver complètement dans le milieu professionnel, à présenter nos ouvrages.
Comment vous avez été reçu par le public, par les autres éditeurs?
C'est bien sûr, c'est mitigé, parce que c'est un passage très difficile. En Lozère, on est le seul éditeur jeunesse. On est bien sûr reconnu par le milieu professionnel du livre, qui est tout petit. On est très visible. Quand on est arrivé à Charleroi, on a un petit peu halluciné parce que moi j'avais mon stand en face de celui de Casterman et à gauche de celui de l'école des loisirs. Donc on était.
Ils devaient être verts, la concurrence.
Ah, ils ont dû dire non. Oh purée, est-ce qu'on pourrait changer de place si il y a Winux là, ouais, s'il vous plaît.
On était en plein milieu du salon. On était extrêmement bien placés. Donc vraiment de la part des organisateurs, il y a eu un vrai effort qui a été fait envers nous pour nous mettre en valeur. Et mais par contre, c'était très dur. Les premiers jours, on a vu des tonnes et des tonnes de gens se précipiter sur les autres stands.
Bien sûr.
Parce que quand on est en face de l'école des loisirs, on fait absolument pas le poids. Ils ont...
Je les aime pas, moi.
Ils ont 150 000 titres à présenter, on en avait 7. Et voilà, c'est une chose à vivre. Et donc après, on s'est dit que l'intérêt pour nous, il était ailleurs, il n'est pas forcément dans le fait de vendre tous nos livres sur place. On avait apporté 150 000 caisses, mais bon, on n'a pas tout vendu. Hein. Et donc, en fait, ça a été vraiment dans le fait de rencontrer des professionnels, beaucoup de libraires, des bibliothécaires, des responsables de prix. Et on a rencontré vraiment beaucoup de monde. Et c'était très, très, très intéressant et instructif pour nous. Et au final, les jours passant, on s'est adapté un peu mieux à la situation. Et on a eu un meilleur succès après. Il y a eu des auteurs qui sont venus dédicacer. Donc le week-end a été finalement assez fructueux aussi au niveau des ventes. Et on a été mis en valeur par plusieurs aspects aussi, parce que le salon a décidé à sélectionner un de nos albums comme élément du parcours pour le public, pour venir voir des livres qui étaient sur leur thème sur la route.
Génial.
Et donc, ils ont sélectionné celui qui rit, ça ira. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'est notre avant-dernier album.
Bien sûr qu'on s'en rappelle.
Donc, en plus, moi, j'adore particulièrement cet album et cette histoire. Donc voilà, cet album était mis en valeur. Le public était censé passer le voir en visitant le salon. Très peu l'ont fait, mais peu importe. Les organisateurs nous ont montré de la solidarité et puis de l'intérêt pour notre travail. Et ensuite, on a eu droit à une présentation publique le dimanche de 11h à 11h30, donc une conférence sur les éditions Vinyux. Donc c'est un peu pompeux comme ça, mais bon, on a pu présenter notre structure, notre façon de travailler qui est assez originale dans le milieu de l'édition, parce que nous publions peu d'albums et que nous faisons beaucoup d'accompagnement dans les écoles, les bibliothèques. Tous les éditeurs ne travaillent pas du tout comme ça. Et donc on a pu présenter tout ça en public.
Et en plus, vous éditez vos ouvrages en Europe. C'est-à-dire qu'à la différence de ceux dont on a cité tout à l'heure, où on est souvent en Chine pour pouvoir faire de l'édition pas chère, vous prenez encore, je ne sais pas si on peut parler de risque, mais en tout cas la démarche citoyenne de faire une édition développement durable.
Mais alors, il ne faut pas me lancer là-dessus, parce que vraiment, là, je suis intarissable et je suis complètement révoltée par les éditeurs qui casse complètement la chaîne du livre en Europe et en France pour aller imprimer leurs livres en Chine. Je trouve ça sordide.
Alors, on va rester, nous, dans le positif. En tout cas, même si on partage complètement, on va surtout souligner que vous avez fait cet effort-là et que ça rend le prix d'autant plus effectivement attrayant, puisqu'on voit bien que la chaîne... Du développement de l'édition a été bien respecté et qu'on est vraiment sur un... Non seulement c'est un ouvrage qui est... Bah là, c'est vrai que c'est pas très... à la radio, c'est moyen parce que vous le voyez pas. Donc, vous avez plus qu'à aller dans nos librairies et notamment nos deux belles librairies mondoises pour trouver cet ouvrage-là. Mais il est effectivement, on peut le témoigner, magnifique et on a envie de l'offrir et de l'avoir chez soi.
Sur le site internet... De Vinyux, qui est
www.editionauplurielvinyux.com. Mais il n'est pas encore en ligne. Attendez, je reviens de Charleroi, là. Je viens à la radio, je suis en contrôle URSSAF. C'est pas encore en ligne. Donc demain pour l'acheter sur Internet.
Demain, il sera disponible.
Bon, mais là, il y a déjà la queue chez les libraires, donc il n'y a pas de problème.
Voilà.
Ah, et ben voilà, une émission sans Nico, elle dure une heure pile.
Et ben voilà, parfait. Ça c'est la classe.
Ça c'est la
on
classe.
On n'a pas toujours bien parlé français, mais bon. Mais au moins, on en a respecté
facile.
C'était pas facile.
Allez, merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci.
Et à un prochain mag. Merci Fred.
Ben merci encore de m'avoir accepté comme régulateur, animateur, catastropheur. Mais
on te donne rendez-vous mardi prochain.
C'est toujours un vrai plaisir de voir le dynamisme de nos partenaires exprimés sur nos ondes. À très bientôt.
48 FM Le Mag.